écoutez la radio, si vous lisez les journaux, si vous allumez la télé, vous avez sûrement entendu parler de wokisme, de cancel culture et de propagande LGBT. Ça fait peur. Elisabeth Roudinesco, célèbre psychanalyste, parle même d'épidémie de transgenre, une menace qu'elle semble trouver bien plus dangereuse que le Covid. Je vous propose de faire simple, basique, on va revoir les bases. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'LGBTQIA+ ? Alors, on a L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, Q pour queer, I pour intersexe et A pour aromantique et asexuel. On est donc en train de parler de deux choses. D'une part, l'orientation sexuelle, par qui on est attiré ou pas, et d'autre part, l'identité de genre, la manière dont on se définit, homme, femme, non-binaire ou autre. N'en déplaise à tous ceux qui crient à l'invasion wokiste, les personnes LGBTQIA+ ont toujours existé, et ce, sur tous les continents. Par contre, la place qui leur était accordée s'est transformée selon les lieux, les cultures, les époques et les rapports de domination. Les mots utilisés pour nommer ces populations ont évolué au fil des siècles. Je vous propose un petit retour historique, non exhaustif, mais qui permet de se rendre compte que si cette histoire LGBT s'est construite en partie aux États-Unis, elle a également ses racines sur le continent européen. On va remonter ensemble jusqu'au XVIIIe siècle. Symbole du siècle des Lumières, le mouvement encyclopédique se développe en parallèle des sciences modernes. Il cherche à définir le vivant avec précision et exhaustivité. Tout doit rentrer dans des cases, selon des critères strictement différenciés. Par exemple, la grande question qui émerge à cette époque, c'est « Qu'est-ce qui différencie l'homme de la femme ? Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Quels critères utiliser pour les définir, et donc les différencier ?» Le milieu médical, en plein développement, se saisit de l'aspect biologique de cette différenciation. Il y a cependant des situations qui ne rentrent pas dans les critères qu'ils ont établis. On trouve ainsi de très nombreux écrits sur les personnes intersexes dès le 18e, 19e siècle. Dans un aspect plus social, c'est également au 18e siècle qu'on voit apparaître le terme très englobant de troisième sexe, qui servait à l'époque de terme général pour désigner toutes les personnes ne rentrant pas dans les normes de genre et de sexualité attendues dans la société. Tout le monde y passe. Les personnes homosexuelles, les travestis, les trans, et même les féministes. Voilà, on sait bien que les féministes ne sont pas des vraies femmes, n'est-ce pas ? Au 19e siècle, le juriste allemand Karl Heinrich Ulrich, lui-même homosexuel, pose les bases de ce qui deviendra le militantisme LGBT. Il crée le terme d'uranien afin de désigner positivement l'homosexualité masculine. Dans les années 1920, Magnus Hirschfeld, médecin et psychologue allemand, travaille à différencier l'homosexualité du travestissement. En 1920, il avait créé la première institution moderne de recherche pour la santé des personnes transgenres et queer. J'ai bien dit 1920. On est à Berlin et dans cette institution sont expérimentés les premiers traitements hormonaux et les premières interventions chirurgicales de réassignation sexuelle. L'arrivée des nazis au pouvoir met violemment le terme à cette structure d'accueil avant-gardiste. L'idée même de transidentité leur est tellement insupportable que les personnes accueillies dans le centre sont abattues dans la rue. Tout comme des livres juifs et communistes, les archives de vie et les travaux de recherche de l'Institut finissent au bûcher. Mais des professionnels réfugiés du nazisme aux États-Unis ont pu participer à la continuité des savoirs et de la recherche. Dans les années 1950, Henri Benjamin, endocrinologue et sexologue, précisera à son tour la différence entre travestissement et transidentité. On arrive globalement aux catégories que l'on utilise aujourd'hui, à savoir l'orientation sexuelle et romantique d'un côté, et l'identité de genre. Dans les années 50, chez nous, en France, on découvre Coccinelle, une femme trans née en 1931. Coccinelle, c'est son nom d'artiste, véritable célébrité, chanteuse, danseuse, actrice. À la même époque, Bambi, femme trans et meneuse de revue. Elle reprend ses études et devient professeure de lettres en 1974. Une femme trans, donc, professeure de lettres, dans les années 70. Bien avant l'invasion américano-LGBT tant décriée aujourd'hui sur les plateaux télé. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça très impressionnant comme histoire. Impressionnant, mais aussi inquiétant de voir à quel point on ignore tout un pan de l'histoire LGBT qui fait partie de notre histoire française et de notre histoire européenne. Alors, quand j'entends parler de wokisme, de phénomène de mode ou encore d'épidémie de transidentité, je me dis que le travail de mémoire est loin d'être fini. Il reste du pain sur la planche, pour les militants et les historiens afin que nos identités ne soient plus invisibilisées.